Radio Barque, alors notre troisième, selon la coutume, c'est notre invité du jour, Henri Martin, maire de Port-la-Nouvelle, et un des vice-présidents du Grand Narbonne, alors chargé de la commande publique, c'est ça Henri Martin ?
Oui, absolument.
Vous confirmez. Ce qui veut dire, en fait, de la commande publique, ce sont les projets, ou les grands projets, petits ou grands d'ailleurs, qu'il y a sur le mandat de ce Grand Narbonne.
Voilà, les appels d'offres d'une façon générale. Réunion commission d'appel d'offres, passation des marchés publics. Il faut savoir que, pour vous donner une idée du volume, le Grand Narbonne donc a passé 403 marchés publics donc sur l'année précédente pour près de 60 millions d'euros. Voilà, donc c'est le suivi des procédures de passation de ces marchés dont je suis chargé.
Oui, alors 403, c'est pas rien quand même. Et alors parmi les grands projets, il y en a un qui est à la nouvelle, et ça tombe bien puisque c'est la commune dont vous êtes maire. Alors d'une part, il y a l'extension du port, et puis parallèlement, il y a un autre projet qui est celui des éoliennes flottantes. Alors c'est pas nouveau, ça suit son cours, j'imagine. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un navire qui continue à explorer le fond de la mer, etc. etc. Mais on a appris récemment qu'une de ces éoliennes sur une technologie semblable fonctionne déjà au Croisic en Bretagne, du côté de l'estuaire de la Loire, si je ne me trompe. Est-ce que vous avez des précisions là-dessus, Henri Martin ?
Oui, absolument. Il s'agit donc de la première éolienne flottante, du premier prototype mouillé en France. Il en existait au Portugal. Et effectivement, c'est une éolienne qui va ressembler étrangement à ce que seront celles qui seront au large de Grissan et au large de Leucate. Simplement, sa puissance est beaucoup moins importante. Elle est d'un volume expérimental, donc c'est un volume moins important. Sa puissance est limitée à 2 MW, et donc sur une hauteur de 60-70 mètres, alors que chez nous, on commence à parler de 7 ou 8 mégas et de machines qui vont faire 176 ou 180 mètres de haut.
Oui, plus du double.
Ouais. Voilà, plus du double, voilà.
Mais cela dit, ça sera quand même expérimental aussi. C'est une ferme expérimentale.
Oui, absolument. L'expérimentation, ça signifie simplement qu'à aujourd'hui, les éoliennes sur Terre sont totalement maîtrisées.
Oui.
Pratiquement, tant au niveau de la puissance que du fonctionnement. Il est rare que l'on voit des pannes notoires de ce genre de machines. À partir du moment où on marinise un matériel, que ce soit un moteur ou une mécanique, la corrosion s'empare de toutes les composantes, et à partir de là, donc, il faut modifier les systèmes de fonctionnement. Et puis en plus, en mer, elles vont fonctionner 24 heures sur 24. Mmh. Les vents sont contraires d'une façon permanente, et elles seront agressées par le sel marin. Et c'est donc surtout à ce titre que l'expérimentation va avoir lieu. Il y a des déperditions d'énergie entre le point de captage, qui va être à 16 ou 17 km de la côte, et le point de livraison sur le continent, sur la terre ferme. Et là aussi, il y a tout un tas de calculs à opérer, et surtout, au bout du compte, tirer le trait et faire l'addition, et dire à l'État français, voilà, c'est à tel prix que nous pouvons fournir de l'énergie. Est-ce que vous pouvez nous aider, ou est-ce que nous rentrons dans ce qui se fait actuellement en Allemagne ? Je crois que c'est là surtout que les choses se passeront.
D'autant plus que même en mer, ça existe depuis un certain temps, mais souvent c'est posé sur le fond de la mer. Absolument. Là, on est sur du nouveau, c'est-à-dire du flottant, avec tous les aléas que cela peut poser.
Oui, la particularité du flottant est intéressante à double titre, puisque je crois que c'est la même technique. Ce sont des bacs en béton, ce sont des flotteurs en béton, qui seraient fabriqués d'ailleurs au moment de la livraison du projet sur Port-la-Nouvelle. Et donc au Croisic, techniquement, on prouve que le système veut non seulement flotter, qu'il est viable, qu'il peut être arrimé donc en bas sur le fond de la mer, et qu'il fonctionne.
Et alors, en plus donc des inconnus auxquels vous faisiez allusion, Henri Martin, bon, l'oxydation et tous ces problèmes-là, il y a le fait que c'est flottant, il faut que le câble descende sur le fond de la mer et ensuite il suive un trajet jusqu'au littoral. Et tout ça, ce sont des inconnus aussi. Je crois qu'en ce moment, il y a un navire qui fait des études sur Port-la-Nouvelle, me semble-t-il.
Inconnu, c'est pas tout à fait le terme que l'on peut employer. Et simplement, il y a une forme de reconnaissance afin que soient préservés des récifs, afin que soient préservés peut-être même des dangers pour le câble en question. C'est un relevé topographique qui fait que le tracé souhaité par les futurs exploitants des éoliennes sera confirmé ou pas. En même temps que nous avons autorisé un tracé à terre pour livrer sur le point d'électricité sur la garrigue de Port-la-Nouvelle.
Et alors les raisons pour la laquelle on ne peut pas poser ces éoliennes, comme par exemple dans la Baltique, dans le nord de l'Europe, c'est que les fonds sont beaucoup plus profonds ici.
Mais la première des raisons, c'est que tous les maires du littoral, Grissant en tête, Le Cat et Port-la-Nouvelle, nous avons refusé le fait de poser des éoliennes devant nos plages, devant les baigneurs, devant l'activité touristique.
Oui, il fallait les éloigner.
Voilà. Mmh. Et l'intérêt de l'opération offshore, c'est justement qu'on ne, visuellement, ça ne constitue pas une modification de l'horizon et qu'elle ne soit pas agressive pour les gens qui seraient qui pourraient, le cas échéant, en apercevoir le haut des pales. Et c'est pas du tout, d'ailleurs, péjoratif au sens de la perception, puisque des études avaient été réalisées par mon ami le maire de Agde, et les clientèles qui arrivent du nord d'Europe et qui fréquentent nos côtes sont tout à fait disposées à recevoir le message par lequel ce que vous voyez là-bas, ce sont des éoliennes qui vous permettent ce matin de faire cuire votre falacoque ou tout simplement de vous raser. Donc les gens sont habitués à ça, mais il ne faut pas que ce soit une agression visuelle posée sur le bord de la plage, comme ça aurait pu être le cas.
Oui, c'est-à-dire on veut bien voir un peu, on veut bien voir le haut des pales, mais pas trop. oui, une remarque, Michel, peut-être là-dessus.
Une précision, simplement rappeler que c'est une phase d'expérimentation.
Oui,
et que les
pouvoirs
publics à l'époque, en fait, ont mis en compétition, si je puis dire, en fait, plusieurs sites et plusieurs constructeurs. Mmh. Hein, et que c'est au terme de cette expérimentation entre plusieurs sites et plusieurs constructeurs que sera choisi celui qui...
à une phase industrielle.
Celui qui, effectivement, aura, si je puis dire, le marché. Quoi.
Voilà. Oui, ce matin, Yannick Jadot, député européen, écolo, a bien précisé que le président de la République réunissait tous les producteurs d'énergie au sens large la semaine prochaine, Total, Bouygues, enfin tous les producteurs, Exareva, etc., pour pouvoir mettre en place une stratégie définitivement axée et figée et tracée de reconversion énergétique, bien entendu.
Alors, autre chose, toujours concernant Port-la-Nouvelle, c'est l'extension du port. Ça, c'est un projet qui est porté notamment par la région, qui n'est pas nouveau. C'était une volonté de Georges Frêche, je crois que ça, c'est l'origine. Où est-ce qu'on en est de cette extension? Parce que là aussi, il y a un phasage sur de nombreuses années.
Oui. Projet qui a été porté donc à l'époque, qui avait été démarré à l'époque de Jacques Blanc, porté par Georges Frêche, et confirmé et suivi par la présidente actuelle, que d'ailleurs j'ai eu l'occasion de remercier. En effet, lors de la campagne électorale, elle nous avait rendu visite, et je me souviens d'une réunion particulièrement animée, une réunion d'échange, et qui n'était pas forcément la réunion qui était menée par une candidate venue capter des voix. C'est quelqu'un qui a posé tous les problèmes d'une manière très réaliste, et qui est parti sans ne rien promettre. Et donc, quand je l'ai revu, je l'ai remercié finalement de tenir des engagements qu'elle n'avait pas pris. Voilà, donc ça, je tiens à le préciser au passage.
Vous voulez dire qu'elle a voulu quand même étudier le dossier absolument. Dont elle a hérité avant de s'engager au-delà.
Voilà, absolument. Oui. Donc la présence de Didier Codorniou à ses côtés n'a pas été étrangère au fait que ce projet continue à vivre dans les esprits et puis se concrétise physiquement. Donc aujourd'hui, les analyses des offres des entreprises susceptibles d'opérer l'agrandissement du port sont à l'examen des services et des cabinets d'études, et il est vraisemblable que en novembre, décembre, le candidat se choisit, et à partir de là que l'échéancier démarre en 2019. Normalement, les quais éoliens, parce qu'il y a une corrélation étroite entre les éoliennes
l'extension
du port. Les quais éoliens devraient être livrés mi-2020, et à partir de là, donc, la fin des travaux du port lui-même serait visuellement et raisonnablement envisageable aux alentours de 2022-2023.
Voilà. Oui. Et les éoliennes fonctionnant, c'est pour quand ?
À peu près à cette échéance-là. Les éoliennes expérimentales, c'est-à-dire deux batteries de 8, deux batteries de 7 ou 8 éoliennes.
Oui.
Et si la chose donc peut déboucher sur la contractualisation de fourniture d'énergie, à ce moment-là, c'est des chiffres beaucoup plus importants que nous aurions trouvé.
Et puis après, c'est sino ad vitam aeternam, en tout cas pour longtemps. Mais est-ce qu'on sait combien de temps va durer l'expérience avant de passer à une phase industrielle?
Je pense que ce sera un petit peu comme les observations écolo, un tour de cadran complet sur un an, au minimum, pour la résistance des matériaux, l'étude de retour de production d'énergie, et à partir de là, les choses seront rapidement contractualisées. Il faut dire qu'ailleurs, ça existe, les éoliennes offshore, donc l'expérience mécanique, si vous voulez, je crois qu'on va pouvoir, là. Par contre, il est évident que si des entreprises franco-françaises sont capables de relever le défi de fabrication de ces matériaux, de ces composants, ce sera quand même quelque chose d'assez positif.
Alors, Port-la-Nouvelle, c'est un port, mais c'est aussi une station balnéaire. On sait, on en a déjà parlé plusieurs fois ici, que sur le plan du tourisme, il y a eu une restructuration au niveau du Grand Narbonne, justement. Il y a maintenant un office de tourisme qui est communautaire, qui est du Grand Narbonne. Ça a touché notamment votre commune. Quel est le premier, enfin, ou un des tout premiers bilans de cette opération? Parce qu'on a des échos assez contradictoires. On nous dit que l'affluence touristique a baissé. Enfin, quel est votre regard, Henri Martin, vous qui êtes le maire de cette commune?
Tout d'abord, qu'il ne faut pas faire de corrélation entre la création de Grand Narbonne Tourisme et plus ou moins de fréquentation sur la plage. Je crois que cette année, tout le monde s'accorde à dire que juillet a été très, très, très timide. Quand on dit tout le monde, les meilleurs des sondeurs, ce sont les caisses des supermarchés, les cafetiers, etc. Alors bon, c'est un petit peu de la Coupe du Monde, c'est un petit peu de l'affaiblissement des pouvoirs d'achat, peu importe. Toujours est-il qu'il y a un fort ralentissement sur juillet. Par contre, ensuite, les choses sont revenues dans l'ordre. Alors pour ce qui est de Grand Narbonne Tourisme, c'est pour nous une très belle opportunité que nous avons voulu saisir pour essayer de valoriser et de monter vers le haut à la fois la façon dont nous exerçons ce métier d'accueil touristique et en même temps d'améliorer nos installations et de classifier justement et les offices et les stations. Donc nous sommes ravis tout d'abord de la constitution de cette opération au sein du Grand Narbonne et nous sommes ravis également de pouvoir côtoyer des gens dont c'est vraiment le métier. Voilà, et en particulier je pense aux grandes stations qui elles pour l'instant ne nous ont pas rejoints. Mais je pense que le calendrier qu'il soit à 1, 2, 3 ans maximum fera qu'elles vont nous rejoindre, mais il faut quand même remonter un peu le niveau des autres stations et des petites capacités d'accueil pour que de concert et dans un avenir proche, je le souhaite, ce soit le Grand Narbonne au complet qui fasse la politique.
Voilà, y compris avec les stations qui aujourd'hui font bande à part, si je puis dire, le 4, Narbonne et Gruissan.
Oui, voilà, bon, on peut les comprendre. Ils ont un rythme de croisière qui est beaucoup plus important que le nôtre. Et nous aurions ralenti leur progression en voulant nous greffer de suite sur le système. Par contre, en nous préparant, comme ça l'est fait de façon très professionnelle par l'encadrement de Grand Narbonne Tourisme, M. Méric en particulier, je crois que nous allons parvenir à un résultat probant, à des labellisations de nos stations qui vont nous permettre de rejoindre la constellation des grandes qui sont à nos côtés.
Alors à propos de stations balnéaires, vous avez un projet qui n'est pas du Grand Narbonne celui-ci, mais qui est municipal, de réfection ou de rénovation du front de mer. Je crois qu'il y a un grand projet là-dessus.
Oui, oui, la requalification du front de mer rentre un petit peu dans ce souci de reclassifier la station, de régénérer un petit peu de vieilles installations. Et là aussi, la région, la présidente Delga nous a suivis, puisque nous sommes éligibles au plan littoral 21. Et effectivement, nous nous sommes lancés dans un projet qui met à la fois d'ailleurs le Grand Narbonne à contribution, puisque tous les réseaux souterrains ont été revus et corrigés avant de faire les traitements de surface. Et nous allons livrer un front de mer qui se veut beaucoup plus moderne, avec une emprise adaptée aux nécessités du moment, en particulier une piste cyclable, et un mur de retour sur la plage qui permettra également, et bien entendu, une protection accrue du littoral, du bord du front de mer, les jours de colère de notre Méditerranée.
Oui. Et à propos de Port-la-Nouvelle, il y a aussi une spécificité qui perdure jusqu'ici, c'est que sur vos plages, l'été, pour surveiller, vous avez des CRS. Alors, il semblerait que ce soit en voie de disparition, cette présence-là.
Et il y a eu déjà un coup de semonce il y a 2-3 ans, et c'est vrai que la présence des CRS à Port-la-Nouvelle en particulier, au même titre qu'à la Grande-Motte, à Valras, au Barcarès, sur les stations où ils ont été conservés, c'est une vieille habitude, et que finalement, ça nous paraît très confortable, parce que d'une part, on a affaire à des MNS, des gens qui sont là pour garantir la sécurité de baignade, mais également un service d'ordre sur la plage.
Ils seraient qui sont des policiers également.
Exactement, voilà. Il serait dommageable de perdre cette affectation. J'ai assisté à une réunion au Havre récemment où le Premier ministre s'est exprimé sur la question. On ne le sent pas en volonté de vouloir retirer complètement les CRS des plages, mais il veut les recentrer sur leur mission. Alors, reste à voir la façon dont on va interpréter cette volonté de recentrer.
Oui, donc à terme, il est possible que ça disparaisse.
C'est une éventualité.
Contre laquelle vous vous battez, apparemment.
À la fois les personnels, le député Perea qui nous suit là-dessus, et également les élus, nous continuons à nous battre pour pouvoir les conserver.
Mmh, ouais. Et d'autres travaux également, alors non pas sur la plage, mais dans l'île Sainte-Lucie, je crois que c'est... Qu'est-ce qui porte ce projet ? Il y a une rénovation du domaine de Sainte-Lucie.
Voilà, effectivement, le domaine de Sainte-Lucie, le bâti était très abîmé. Donc il y avait deux solutions, ou l'aider à tomber, ou alors à essayer de conforter. Il a été décidé, donc, qui appartient au conservatoire, je précise, hein. Donc il a été décidé de la réhabilitation du domaine. L'Europe donc vient sur l'opération à hauteur de 50% des 3,5 millions, c'est une très grosse opération. Le conseil départemental est présent également à hauteur de 15%, la région est également présente, et il s'agit dans un premier temps de renforcer le bâti et les revêtements, et dans un deuxième temps, l'aménagement intérieur selon le projet retenu, car il n'est pas exclu qu'un maillage en lien avec la réhabilitation du Grand Castellou nous permette de mettre en place un gîte avec petite restauration, par exemple, pour des conférenciers naturalistes, du bird watching, puisque ça s'appelle comme ça en patois, voilà. Hein.
Et, l'ornithologie, quoi, la
soirée. Voilà. Et les visiteurs de l'île qui pourraient donc séjourner dans ces locaux.
Voilà, oui,
opération
voilà.
Particulièrement intéressante.
Il faut préciser quand même que Sainte-Lucie est un but de promenade pédestre très très fort dans le coin.
Absolument.
À cause de la spécificité de
absolument. Et cette structure d'accueil va renforcer l'envie que
peuvent
avoir l'attractivité le long de la Robine en venant de Narbonne. Puisque maintenant, la Robine se met à vivre au niveau du départ de Narbonne, avec le musée de la Romanité et tous les équipements qui vont suivre autour, et puis les récentes découvertes qui vont le valoriser, dont les invités à venir vers chez nous, au même titre que les Gruissanais, peuvent venir très librement échanger avec Port-la-Nouvelle.
Sainte-Lucie, dont, paraît-il, au Moyen-Âge, on a été extraire des pierres pour construire Saint-Just. Est-ce que vous confirmez ça ?
Alors, je vous confirme que je n'y étais pas.
Oui, ça merci, je le savais.
Par contre, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de croiser plusieurs lectures par lesquelles il semblerait que des pierres de Sainte-Lucie aient été prélevées pour bâtir Saint-Just. Ce sont des pierres de très bonne qualité,
du calcaire.
Hein. Oui, voilà, et un calcaire de bonne qualité, qui d'ailleurs n'a pas été utilisé, et c'est dommage pour l'église de Port-la-Nouvelle, qui, elle, par contre, transpire autant que les fonds marins qui agressent toutes les habitations, les vieilles habitations de l'époque, et qui me fait dire que la qualité de Sainte-Lucie n'a pas été malheureusement retenue, a été retenue pour Saint-Just.
Ce qui confirme que nul n'est prophète en son pays.
Oui, et que les Narbonnais ont toujours eu quand même une certaine suprématie sur le territoire de Port-la-Nouvelle.
Voilà. Pour terminer, Henri Martin, une question plus politique, politicienne, mais au bon sens du terme. Donc vous êtes un des vice-présidents du Grand Narbonne. Comment voyez-vous l'avenir de cette agglomération qui se structure depuis pas mal d'années, avec ses avantages, avec ses qualités et ses défauts. Mais vous êtes un des rares à l'agglo qui semble, à chaque fois que le problème vient sur la sellette, qui semble s'intéresser à la stratégie, au devenir des prochaines élections municipales qui aboutiront donc à un renouvellement de ce Grand Narbonne, de cette communauté d'agglomération. Comment voyez-vous la suite ?
Tout d'abord, un petit retour en arrière, en expliquant que lors des dernières élections municipales, le maire de Narbonne, qui était président de l'agglomération, s'est vu éconduire dans sa démarche de maire de Narbonne. Donc, la présidence de l'agglo a échu à une équipe qui a été battue à la mairie. Voilà. Elle a été échue à cette équipe parce que nous avions déjà l'expérience de travailler ensemble. C'est la période dans laquelle, pour la Nouvelle en particulier, plus les communes du secteur du canton de Sigean ont rejoint l'agglo. Donc nous avions pris quelques marques, nous avions pris acte de quelques engagements, et donc nous avons soutenu la reconduction de cette gouvernance qui nous donnait satisfaction sur le mandat précédent. Voilà, voilà pourquoi M. Bascou a été élu avec 2 voix de majorité sur Didier Mouly, et entre autres pour la Nouvelle est porteuse de 3 voix, donc ce n'est pas forcément pour la Nouvelle qui a mis en place
M. Bascou,
mais nous y avons, et j'ai été très clair là-dessus, contribué, puisque je plaide, moi, pour la continuité dans les actions municipales et dans les actions de l'agglo.
Seulement, la suite n'a pas été simple.
Non, voilà. Alors donc, elle ne pouvait pas être simple, malheureusement, puisque d'un côté, nous avons des gens qui ont été exclus de l'hôtel de ville. De l'autre côté, une équipe qui se met en place avec l'équipe de Didier Mouly et qui, au bout d'un an ou deux, s'aperçoit quand même que l'agglo, ça compte beaucoup dans la respiration du quotidien des Narbonnais.
Voilà.
Et ils s'aperçoivent qu'ils ne participent pas du tout à l'exécutif. Voilà. Voilà un petit peu d'où viennent les problèmes. Les conseils municipaux, les conseils d'agglo, on sent que ce sont les ex-équipes de conquête de la mairie de Narbonne qui s'opposent, et donc ça perturbe quelque peu le climat.
Et bon, et on va conclure là-dessus, Henri Martin, comment éviter à l'avenir ce genre de problème, ce combat de tranchées quasi permanent?
Mais éviter, je ne sais pas comment on pourra le faire, parce que le législateur n'a pas prévu une élection
claire et nette, oui, à ce
niveau-là. Une élection au suffrage universel direct et séparé des élus de l'agglo. Donc on va continuer à envoyer des gens des municipales vers l'agglo. Par contre, et ce coup-ci, j'espère que nul n'y échappera, il faudra que les uns et les autres, candidats dans les villages, dans les villes moyennes et dans les villes, annoncent la couleur en disant, voilà, si demain je suis élu dans ma ville, voilà quelle va être la politique que je vais engager à l'agglo, voilà quelle va être ma façon dont je prendrai position par rapport à la ville de Narbonne et par rapport aux élus de Narbonne, qui aujourd'hui sont totalement exclus, ce que je considère, je vous le dis très clairement, totalement anormal. Il y a un projet comme la salle multimodale également. Aujourd'hui, c'est se voiler la face que de refuser le débat sur la multimodale. Car quel que soit le maire demain de Narbonne, la multimodale rentrera dans l'intérêt communautaire. Donc autant en parler avant et en toute clarté.
Voilà. Ça veut dire donc que pour vous, dorénavant, les municipales, il faudra qu'il y ait un très large volet clair, net et bien présenté pour l'action future dans l'agglo.
Absolument. Dire aux gens, voilà, vous allez m'élire en tant que, certes, élu municipal, mais également à l'agglo, et voilà quelles sont les lignes directrices qui seront les miennes, et voilà quel système je pense soutenir en termes de gouvernance.
Eh bien, merci Henri Martin pour toutes ces explications et ce regard justement important sur l'avenir du Grand Narbonne. Prochain invité, ce sera alors Nicolas Sainte-Cluc, qui lui est candidat déclaré clairement à la mairie de Narbonne, qui est actuellement élu d'ailleurs dans l'opposition, mais porte-parole de l'association J'aime Narbonne, qui donc récemment l'a désigné tête de liste, pas tête de liste, mais en tout cas porte-parole et candidat clairement avoué. Nous évoquerons avec lui l'avenir d'abord de la ville de Narbonne éventuellement, et puis aussi de tout le reste. Merci encore Henri Martin, et merci de nous avoir suivis, et à la semaine prochaine.
Merci à vous, à bientôt.